الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La dernière fois, on avait vu deux petits signes de Qiyama. Ces deux petits signes, c'était le fait que avant la fin des temps, on trouvera de moins en moins de bénédictions dans le temps. Il n'y aura plus de baraka dans le temps, c'est-à-dire le temps passera de plus en plus vite. Et ça, on avait expliqué que c'est le fait qu'il y aura moins de bénédictions de baraka, on aura moins la possibilité de profiter du temps, sans pour autant qu'on puisse dire que le temps diminuera réellement. Cela contrairement à l'arrivée au règne de Dajjal, où le temps sera réellement changé, un changement radical dans le lever pardon, et le coucher du soleil. Le deuxième petit signe qu'on avait vu la dernière fois, c'était qu'avant la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala reprendra les gens pieux et principalement les gens qui détenaient la science religieuse. Avant la fin des temps, les gens pieux quitteront ce monde, les grands savants, les véritables savants quitteront ce monde, mais le piège c'est quoi? C'est qu'ils ne seront plus remplacés. Ils ne seront pas remplacés. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on a l'intention ferme de compléter les petits signes de Qiyama, parce que ça fait depuis trois mardis, on dit qu'on va terminer pour commencer sur Imam Mehdi. Et ce soir, Inch'Allah, on va faire les quatre derniers petits signes de Qiyama. Premièrement, un changement qui aura lieu, on ne dirait pas un changement climatique, mais un changement concernant même la situation des êtres humains, des phénomènes géologiques, ou parfois des phénomènes qui dépassent le domaine de la géologie. Donc, certains changements qui auront lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbad al-'ilm. Le qiyama n'aura pas lieu avant que la science ne soit reprise. Ça on avait vu. Wa yataqarabu az-zaman, et que le temps diminuera. Ça on avait vu. Et enfin, wa takthiru az-zalazil. Et donc avant la fin des temps, il y aura de plus en plus de séismes, de plus en plus de tremblements de terre. Et les ulama ils expliquent le fait que les tremblements de terre ont toujours existé. À toutes les époques, il y a des tremblements de terre. Les scientifiques pourront dire que c'est là un phénomène de ce qu'on appelle la tectonique des plaques. C'est quelque chose qui est normal et qui est peut-être même nécessaire pour le maintien des croûtes terrestres, comme ils disent, d'accord. Mais les zalazils, les séismes, les tremblements de terre qu'il y aura avant la fin des temps seront radicalement différents. Les ulama expliquent que ce seront des tremblements de terre qui s'enchaîneront. Un qui termine, l'autre redémarre. C'est-à-dire un rythme qui est anormal, un rythme qui n'a jamais été vérifié à d'autres époques et qui, selon les études géologiques ordinaires, ne peuvent pas se produire un tel rythme, une telle fréquence. Ce seront donc, sur les changements climatiques, on se suffira de trois choses. Un, les tremblements de terre, donc ça on a vu, comment seront ces tremblements de terre avant la fin des temps. Et dans certains hadiths, il a même expliqué que parmi ces tremblements de terre, si je retrouve le hadith, il y en aura trois qui seront particulièrement violents. Il y aura un tremblement de terre, subhanallah. C'est de trouver le texte. Le hadith qui expliquait également quelles étaient les régions. Voilà. Le hadith de Usayd al-Ghaffari, radiallahu anhu, pour ça m'expliquer que إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات. Il y aura 10 signes avant la fin des temps. Et parmi les 10 signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. Un tremblement de terre en Occident, un autre en Orient et un autre tremblement de terre dans la péninsule arabe. Donc des tremblements de terre qui vont s'enchaîner et qui vont devenir une fréquence qui n'est pas explicable sur le plan scientifique. Ça c'est un point. Deuxième point, dans d'autres hadiths, il est dit également qu'avant la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, il a dit que je jure par Allah qu'il y aura des gens, رِجَالُ مِنَ السَّمَاءِ بِحِجَارَةٍ, il y aura des gens qui seront anéantis par des pierres qui descendront du ciel. Hein, et ces pierres s'abattront sur eux, فِي طُرُقِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ كَمَا فُعِلَ بِقَوْمِ لُوطٍ. Hein, ces pierres s'abattront sur eux alors qu'ils sont en chemin sur la route, sur leur famille, sur leur tribu, comme cela avait été fait pour le peuple de Hazrat Lut alayhi salam. Et certaines personnes, certains peuples,
بقارون. Et certains peuples seront engloutis, donc seront avalés par la terre, comme Qarun alayhi la'natullah a été englouti. Donc, la chute de ce qu'on appelle des météorites, cela éventuellement pourrait faire partie, on pourrait interpréter, lorsque le Prophète dit que des pierres qui tombent du ciel, ce qui paraît le plus cohérent, ce serait la chute de météorites. Et justement, il y a une semaine, cela a été filmé sur YouTube, subhanallah, la chute d'une météorite à, subhanallah, près de Johannesburg, en Afrique du Sud. C'était même sur le site de, pas besoin de chercher un grand site, hein, sur Clicano. Donc c'est vraiment à la portée de main, d'accord. Donc ils ont eu la vidéo, mais c'est vraiment extraordinaire, c'est impressionnant. On voit que la météorite entre dans l'atmosphère. Normalement, la météorite est censée se désintégrer avant d'entrer dans l'atmosphère. Mais là, elle a tenu un petit peu, ça ne s'est pas abattu, alhamdoulilah, sur la terre. Mais quand même, elle est entrée dans notre atmosphère. Et lorsqu'elle s'est désintégrée, c'était pas comme de la foudre, c'était comme si qu'il y avait une bombe nucléaire, une bombe atomique. Vraiment, c'était une lumière qui a jailli, c'était le soir, d'accord. Une lumière qui a recouvert toute la ville, c'était comme un flash lumineux. C'est une vidéo exceptionnelle, c'est impressionnant. Donc ça nous donne une idée qu'une pierre, c'est donc cohérent, c'est possible qu'une pierre vient de l'atmosphère et tombe sur la terre. Donc, comme le peuple de Lout a.s. a été anéanti par la chute de pierre, à la fin des temps, Allah Ta'ala punira certaines populations par la chute des pierres. Et d'autres personnes seront punies comme les gens d'avant avaient été punis. Le fait d'être englouti par la terre, ça c'est une punition terrible. Qarun, il a subi ce châtiment de la part d'Allah. Mais avant la fin des temps, certaines populations, certains peuples subiront des vieux châtiments, on pourrait dire. Des châtiments anciens qui n'ont plus touché cette communauté. Et d'ailleurs, on va voir ce qui est le plus choquant, c'est que on va voir, ça c'est le deuxième signe qu'on va voir, c'est que le Prophète avait toujours demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger sa communauté contre le fait qu'il y ait des gens qui soient défigurés, des gens qui soient transformés en animal, comme c'était le cas avant. Certaines personnes, à d'autres époques, ont été transformées soit en qirada, en singe, ou alors en khanazir, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été transformés soit en porc, soit en singe. Et la communauté a eu la protection contre cela. Mais avant la fin des temps, il y a certaines personnes qui subiront ce châtiment, alors que depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à de nos jours, il n'y a pas eu de musulmans. Des gens qui se proclament musulmans de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu des gens qui ont été défigurés de la sorte. Certainement pas le doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant la fin des temps, des vieux châtiments comme ça, le fait d'être englouti, d'être anéanti par des pierres qui viennent du ciel, ces vieux châtiments ressurgiront avant la fin des temps, mais certainement ces châtiments toucheront les gens, les pires des gens, les pires des koufars, parce que les pires des koufars, ce sont ceux qui vont venir avant la fin des temps. Avant le Qiyama, ce seront là les pires des personnes. Donc il y a trois signes, là on a vu dans les changements climatiques un peu, tremblement de terre, chute de météorites et des gens qui seront engloutis. Maintenant, la grande question quand on parle de tremblement de terre, quand on parle de ces trois tremblements de terre, un en Occident, un en Orient et l'autre dans la péninsule arabe, est-ce que le tremblement de terre, à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre qui dévaste une ville entière ou un village, ou alors ça fait des dizaines, des quinzaines de milliers de morts, beaucoup de gens disent que ça fait, c'est peut-être ce signe, c'est le tremblement de terre de l'Occident ou de l'Orient, mais ça on ne peut pas dire. On n'a pas le droit de s'avancer. On ne peut pas dire que voilà le tremblement de terre annoncé par le prophète sallam qui doit toucher par exemple la péninsule arabe, c'est celle-là. Quoique dans la péninsule arabe en général, il n'y a pas de séisme. C'est une question de plaque terrestre. Apparemment, dans la péninsule arabe, le contexte géologique n'est pas favorable à l'apparition de séisme. Il n'y a pas de choc entre, il n'y a pas un mouvement tectonique des plaques comme il y a par exemple au Japon, en Asie ou dans d'autres pays. Mais avant la fin des temps, il y aura un séisme violent qui sera à Madina, qui sera dans la péninsule arabe. Et certainement, je ne sais pas si on peut faire la relation directe, tant qu'on ne trouve pas de texte qui le prouve, on sait que avant la venue de Dajjal, la ville Moubarak de Madina chassera les impuretés. Les gens qui sont impurs, il y aura des tremblements de terre et certaines personnes apeurées quitteront la ville de Madina. Et donc quand ils quitteront, ils n'auront plus la protection. Ils n'auront plus la garantie d'être dans un sanctuaire protégé comme le seront Makka et Madina. Donc ce sont là trois phénomènes qui auront lieu avant la fin des temps concernant des changements climatiques. Maintenant, comme on l'avait expliqué la dernière fois, il y avait un ouvrage cinématographique qui était sorti il y a quelque temps, qui avait pour objectif de reprendre une thèse des Mayas, selon laquelle l'alignement des planètes aurait lieu en 2012. Il y aura un changement des pôles, un inversement des pôles, enfin quelque chose comme ça, et que la fin du monde aurait normalement lieu en 2012. Alors, on a fait des efforts, on a fait droit pour avoir le film, et on a eu, on aurait peut-être dû demander autre chose, on a eu, et avec cette intention, avec cette crainte surtout, que beaucoup de jeunes iraient voir au cinéma le film 2012, en se disant que la fin du monde aura lieu comme ça, et la fin du monde aura lieu en 2012. Donc c'est important de voir qu'est-ce qu'il véhicule, quel genre de message il véhicule à travers cet ouvrage cinématographique qui dure quand même 2h30, on était rassurés, il ne présente rien de sérieux. Ils font juste allusion à une prophétie maya et on monte des suicides collectifs comme c'est souvent le cas dans des sectes, des suicides collectifs en Amérique du Sud ou au Tibet, je ne sais pas dans quelle région du monde. Et après, on est dans le film américain où l'Américain à la fin sauve tout le monde. Et sauf que là, on n'a pas vu 60 fois le drapeau américain pendant le film. Mais mis à part ça, il n'y a rien à retirer. Il n'y a strictement rien à retirer. Et il n'y a donc rien à craindre non plus. Il n'y a donc rien à craindre concernant l'Aqida. Parce que c'est grave si un musulman va se dire que réellement la fin du monde aura lieu en 2012. Il va en opposition directe. On ne parle pas des signes de manière précise parce que par rapport à l'enchaînement des signes, ce n'est pas possible. Sachant que l'imam Mehdi doit faire combien d'années sur la terre? Au moins 7 ans. Donc là, on est en 2009, d'accord? 2009 plus 16, ça nous fait 2016. Donc, mathématiquement, ce n'est pas possible. Uniquement par rapport à un des signes de Qiyam. Et sachant qu'il y a au moins 3 petits signes qui ne se sont pas encore produits, entre autres ces signes-là, ben, ça, on n'a pas inclus dans les 3. Donc, par rapport à l'ordre chronologique des signes, ce n'est pas possible. Mais on ne va pas aller dans les détails, quelque chose de plus proche de nous. Si quelqu'un croit que la fin du monde aura lieu en 2012, il va à l'encontre de ce qu'Allah dit dans le Coran. Yas'aluka an-nas 'ani as-sa'a. Les gens te demandent, te questionnent à propos de l'heure. L'heure, c'est quoi? C'est la fin du monde. Demandez au prophète, au Mohammed, quand aura lieu la fin du monde. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Et Allah Ta'ala ordonne au prophète de répondre à ces gens que la connaissance de la date précise de la fin du monde, ça c'est auprès d'Allah. Ni le prophète ne savait, ni Hazrat Jibril ne savait. Et ça nous ramène à un hadith de base, hadith de sur la foi. Lorsque Jibril vient, il s'assoit auprès du prophète, il a pris l'apparence d'un être humain, et là il pose des questions sur la foi. Et à chaque fois que le prophète répond, il dit sadaqta, sadaqta, hadith al-iman, ça c'est connu. Et à la fin il pose, on ne dirait pas une colle, mais il pose une question, il demande au prophète, quand aura lieu la fin du monde. Et là, le prophète dit que celui qui interroge ne connaît pas plus que celui qui est interrogé. Ça, c'est une figure de style magnifique. Hein? Celui qui interroge ne sait pas plus que celui qui est interrogé. Et là, les muhadithines expliquent que le meilleur des hommes, c'est-à-dire le prophète sallam, on pourrait dire le meilleur des créatures même, ne sait pas quand aura lieu le qiyama. Et en face de lui, quand on dit en face de lui, c'était juste à côté, hein, les genoux qui se touchaient les uns aux autres, le meilleur des anges et la créature la plus gigantesque qu'il y a sur qu'Allah a créé, c'est-à-dire en termes de corpulence, Hazrat Jibril salam est le plus proche d'Allah parmi les anges. Lui, il ne connaît pas quand aura lieu la fin du monde. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, ne sait pas quand aura lieu la fin du monde. Personne ne sait. Ce ne sont pas les Mayas qui vont nous apprendre que la fin du monde aura lieu en 2012. Donc, celui qui croit que réellement il y a une chance, c'est possible. Ce n'est pas écarté, c'est grave. On va à l'encontre d'un texte sahih, d'un texte clair, explicite du Coran, un verset du Coran, et un texte explicite de hadith authentique qui prouve que personne n'est en mesure de dire que la fin. Même Imam Mehdi, quand il viendra, il n'y a pas un texte qui stipule que Imam Mehdi annoncera quand aura lieu la fin du monde. Même Isa alayhi salam, qu'Imam Mehdi restera 7 ans, dans certaines versions 9 ans, et puis il va mourir et on fera son janaza comme un être humain normal. Isa alayhi salam également, il mourra et après la vie continuera, il y aura encore quelques années, mais même Isa alayhi salam ne dira pas aux gens que maintenant je vais quitter ce dunya, ce monde, il vous reste 10 ans à vivre ou il reste 2 mois à vivre. Personne, même Isa alayhi salam ne connaît pas. Donc personne n'a le droit de croire ou d'avoir un soupçon de doute qu'il y a une véracité à travers cette prophétie maya. Il n'y a aucune véracité. Les gens qui adoraient le soleil ne peuvent pas apporter quelque chose concernant la croyance. sur la médecine ou autre chose, qu'ils aient découvert des choses, tant mieux, toutes les populations ont eu cela, mais sur les croyances et la fin du monde, ça concerne l'aqida, l'iman bil-yawm al-akhir, et entre autres la fin du monde. Donc on n'est pas en droit d'avoir des doutes. Donc si quelqu'un a peur que ses enfants regardent, ils pensent n'importe quoi, sachez qu'on reste dans la fiction américaine et en aucun cas c'est un film historique. Ce qui est plus inquiétant, ce sont les sites qui relaient les informations, et là ce sont parfois des thèses assez bien construites. Donc ça, Inch'Allah, la deuxième étape, on va essayer d'étudier un peu qu'est-ce qu'ils disent, et puis on va faire une petite synthèse, on essaiera de comparer avec, même pas comparer, on ne compare pas ce qui est incomparable, mais on va essayer de démontrer comment ce que nous avons dans le texte déroute complètement, mais on déroute complètement ce que cette prophétie essaie de nous faire croire. Alors, justement, avant la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que donc, il y aura des gens dans sa communauté qui seront donc transformés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, An Abi Hurayra radhiyallahu anhu, le hadith est un peu long, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ هَذِي الْأُمَّةِ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَنَازِيرٍ. Dans هَذِي الْأُمَّةِ, dans cette communauté, dans cette umma, il y aura avant la fin des temps des gens qui seront défigurés, transformés, et qui seront donc transformés en singes et en porcs. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ, au prophète d'Allah, عَلَيْسَ يَشْهَدُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Au prophète d'Allah, mais ces gens, est-ce qu'ils n'attestent pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? C'est-à-dire que ce ne sont pas des musulmans. Si vous précisez dans ta communauté, dans cette communauté, dans cette ummah, ne sont-ils pas musulmans? Le prophète me dit, bala, bien sûr que oui. Wa yasumuna, wa yusalluna, wa yahujjun. Alors c'est grave là. Le prophète me dit que oui, ils jeûnent le ramadan, ils prient leur salat de faraz et ils accomplissent le pèlerinage. Ah, ça peut être vous et moi, Allah nous protège. Il n'y a pas de différence. Ce sont des gens qui font. Ce n'est pas des gens qui ont lu la ilaha illallah et qui adorent les idoles. Non. Ce sont des gens qui pratiquent. Mais ça, c'est vraiment à la fin des temps. Et là, les sahabas, ils ont demandé. Vous voyez comment les sahabas posent des questions? Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est constructif. De nos jours, nous, on pose des questions. Mais la plupart des questions que nous posons n'ont ni queue ni tête. Des questions bêtes. Des questions existentielles. Est-ce que, supposer qu'on ne pose pas des réelles questions qui ont pour objectif de comprendre les textes? Les sahabas, ils entendent quelque chose qu'ils ne conçoivent pas. Ils demandent immédiatement. Et le fait de poser une question, ce n'est pas un manque de respect. Il ne faut pas se dire que, ah non, ça c'est un grand cher, un grand alim, poser une question, il va dire, ah, on doute de moi, ou mettre ce que je dis en doute, et tu doutes de mes compétences. Là, wallah. Le fait de poser des questions, ça nous permet d'apprendre la connaissance religieuse. On expliquait la dernière fois, ça c'est une parole de sagesse, qu'il y a deux personnes qui ne vont jamais apprendre la science religieuse, qui ne profiteront jamais d'un professeur. C'est qui? Celui qui manque de respect, une personne impolie, grossier, qui manque de respect, qui ne respecte pas l'enseignant, et la personne qui fait preuve d'excès de timidité, quelqu'un trop timide. Il a une question, mais il n'ose pas demander, ben c'est lui qui est le premier perdant, il ne profitera pas, d'accord? Donc il était important, les questions, ça nous fait avancer. Et ça permet d'évacuer les doutes, qui peuvent avoir comme origine notre ignorance, ou alors les waswasa de shaitan, les pièges, les insufflations de shaitan. Alors le sahaba dit au prophète d'Allah, comment cela se fait-il, musulmans? Ils prient, ils jeûnent, ils font le pèlerinage, comment est-ce qu'ils seront transformés? Et le prophète m'a dit, ittakhadul ma'azifi wa dufuf wa al-qin, etc. etc. Et le prophète va citer pas mal de signes qu'on retrouve dans 4 ou 5 hadiths différents, pour être un peu plus rapide, les péchés que ces gens feront à la fin des temps, il y aura la musique. La musique, al-ma'azif, les instruments de musique seront généralisés et banalisés. Également, fabatu ala shurbihim wa lahwihim, l'alcool, la consommation de boissons alcoolisées également sera généralisée chez ces musulmans. Fa asbahu wa qad musihu. Ces gens-là, ils auront bu, ils auront chanté, ils auront dansé et ils s'endorment. Ils vont dormir auprès de leur instrument. Fa asbahu. Et lorsqu'ils se réveilleront, وَقَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِينَ وَصَنَعَا فِيَا, lorsqu'ils se réveilleront, ils se rendront compte qu'ils ont été transformés en singes et en porcs. Et dans d'autres versions, dans d'autres hadiths, est expliqué d'autres péchés. بِسْتِحْلَالِهِمْ الْمَحَارِمِ. Ils vont décréter licite ce qu'Allah a rendu haram. Et ça c'est extrêmement grave. Lorsque quelqu'un fait un péché, il dit que ça n'est pas grave ça. Lorsque quelqu'un fait un emprunt avec la banque ou autre organisme avec intérêt, il dit que ça, c'est pas grave, ça. C'est-à-dire, on a légalisé ce qu'Allah a rendu haram depuis qu'il a écrit le Coran. depuis qu'Allah Ta'ala a écrit le Coran et l'a révélé au Lawh al-Mahfouz et ensuite révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette règle est appliquée depuis 15 ou 16 siècles déjà. Sinon, nous en 2009, on va dire que ça c'est autorisé ou ça c'est pas grave, on est en train de légaliser quelque chose qu'Allah a rendu haram et qu'Allah déteste. Wa shurbihim al-khamr, ça revient, la consommation de boissons alcoolisées, wa aklihim al-riba, et le fait d'utiliser l'intérêt, utiliser l'argent haram, l'argent de l'intérêt. Autre péché, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais sans critiquer les gens, waqtifa ar-rijal bir-rijal wan-nisa bin-nisa, les hommes se suffiront des hommes et les femmes se suffiront des femmes. Alors on fait très attention parce que on ne veut pas sombrer dans un crime homophobe, des paroles homophobes comme ils disent, mais l'homosexualité, ça fait partie des choses qui caractérisent ces gens qui, avant la fin des temps, auront le visage transformé en porc et en singe qu'Allah nous protège. C'est que certaines personnes parlent d'émancipation, de liberté, du choix, le choix d'aimer. La question qu'on pourrait poser, qu'on a déjà dit, imagine, si vraiment on considère l'homosexualité comme l'épanouissement d'un être humain, c'est-à-dire l'épanouissement de l'amour, ça fait partie de la liberté individuelle, imaginez que la totalité de la planète était composée d'homosexuels. Si nous sommes 8 milliards d'habitants, 4 milliards d'hommes, 4 milliards de femmes par exemple, les 4 milliards d'hommes étaient homosexuels, les 4 milliards de femmes pareil. Est-ce qu'il y aurait un renouvellement des générations? Il n'y aurait plus d'enfants. Si les hommes restent avec les hommes, les femmes avec les femmes, il n'y aurait plus de renouvellement de générations. Cela seulement nous fait comprendre que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la nature. Cela nous fait comprendre que cela va à l'encontre de la nature, parce que la nature, c'est quoi? C'est la vie. La vie qu'on transmet de génération en génération, bidnillah. Si il y a une union qui ne permet pas la procréation, ça veut dire qu'on ne va pas dans le sens de la nature. Même les animaux ne le font pas. Même les animaux ne s'accouplent pas entre des espèces d'un même sexe. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est notre intelligence qui a fait qu'on dépasse le règne animal dans ce genre de choses, nasrullah al-afiyah, mais ça fait partie des caractéristiques des gens qui seront transformés avant la fin des temps, qu'Allah nous protège. Et enfin, dernier point, c'est l'avant-dernier point, mais on peut considérer ça comme le dernier point pour ce soir. Ça c'est vraiment avant la fin des temps, le prophète sallam a annoncé, et ça c'est quelque chose de catastrophique, avant la fin des temps, la taqoum as-sa'a hatta talhiqu qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta yu'badu al-awthan. Certaines personnes de ma communauté se joindront aux polythéistes et les gens recommenceront à adorer les idoles. Et dans le hadith, le prophète sallam a dit que dans le commentaire de Idaja an-Nasrullah wal-Fath, vous savez que ce verset explique que les gens, un jour, ils vont entrer dans la religion d'Allah en quantité, en masse. C'était donc déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yukhrajanna minhu afwaja kama dakhalu fihi afwaja. Il y aura des gens qui quitteront l'islam en masse, tout comme il y a une époque où les gens sont entrés dans l'islam en masse. Et ça, c'est avant la fin des temps, qu'Allah nous protège. Inna nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Dans cet autre hadith, hein, de cette fois-ci de Jabir ibn Abdillah, les gens sont entrés dans l'islam en groupe, en masse, massivement, mais il y en a qui sortiront de l'islam également massivement. C'est pour ça, mes chers frères, lorsque nous lisons dans la salat al-shahwa et dina salat al-mustaqim, ce n'est pas pour rien, nous demandons à Allah de nous guider vers le droit chemin. C'est quoi demander à Allah istiqam, à la fermeté de rester dans le iman? Parce que, ça, on change de sujet. Dans les hadiths, dans les commentaires des hadiths qui parlent des épreuves, des maladies, perte de biens, perte de proches, toutes les difficultés qu'il y a. Les commentateurs des hadiths, ils disent que lorsqu'une personne est éprouvée par Allah, il y a déjà deux choses que cette personne doit, pour deux choses, elle doit être reconnaissante. Premièrement, elle se dit que Allah ne m'a pas éprouvé plus. Parce qu'à chaque fois dans l'épreuve, on peut trouver quelqu'un qui est plus éprouvé. Et deuxièmement, c'est la plus importante, nous remercions Allah que l'épreuve ne touche pas notre dîn, que l'épreuve ne touche pas notre iman. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui est éprouvée dans sa foi. De quelle manière? En doutant du dîn, en ayant des doutes sur quelque chose qui a trait à la religion, à sa foi. Et quand quelqu'un commence à douter de son iman, et donc à perdre pourcentage par pourcentage, graine par graine, il commence à perdre sa foi, ça c'est la pire des choses. Parce que quelqu'un peut mourir paraplégique, Mais s'il a iman, il entrera au paradis. Une personne meurt sans iman avec tout l'honneur et les richesses de ce dunya, cette personne n'accédera jamais au paradis. C'est la plus grande des catastrophes. Il vaut mieux quelqu'un, qu'Allah nous protège, hein, il vaut mieux qu'une personne meure d'un cancer généralisé qu'une personne meure riche et célèbre sans iman. Il vaut mieux qu'une personne meure d'un cancer généralisé avec shahada qu'une personne meure sans iman avec tous les biens de ce monde. Qu'Allah nous protège. Shahada. Également, le prophète m'a expliqué, entre autres, quelles sont les idoles qui sont adorées avant la fin des temps. Là, il dit, le prophète m'explique, on va dire en arabe pour aller plus rapidement, qu'il y aura certaines tribus arabes de la tribu de Daous qui retourneront vers l'adoration d'une idole qui était appelée avant Dhul Khulsa. Et si on voudrait faire un peu d'histoire, Dhul Khulsa, c'était une idole qui était adorée par certaines tribus arabes. Et il y a un siècle et demi de cela, certaines tribus arabes ont recommencé à faire le culte de cette idole qui, ça datait depuis l'époque pré-islamique, le Jahiliya. Et donc, il y a eu un homme qui s'appelle Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui était à l'origine de la fondation du royaume d'Arabie Saoudite avec le roi Abdelaziz, Ali Saoud, qui a proposé au roi que voilà, la religion ne s'installera jamais dans le pays tant qu'il y aura des gens qui continueront à faire le culte des idoles. Et donc là, ils ont fait un travail pour faire la da'wah auprès des tribus arabes qui étaient retournées vers le polythéisme et pour combattre ces gens et détruire les idoles. Et à une époque, ces idoles ont été détruites, mais les gens, quelques temps après, ils ont recommencé à faire le culte. Et c'est là que Abdelaziz Mohammed bin Saoud, un de leurs descendants, a décidé de complètement dévaster toute la région où il y avait le culte d'idoles. Alors, très souvent, il est un peu tard, c'est pas qu'on a fait 30 minutes, mais qu'ils vont fermer, il n'y a personne d'autre qui a la clé, apparemment, c'est un problème. On a la clé, alhamdoulilah. Donc, si on voudrait faire un peu d'histoire, pour qu'on comprenne bien comment les médias ont tendance à manipuler l'esprit des gens. Lorsque nous parlons de wahhabisme, c'est un mouvement intégriste, c'est un mouvement rigoriste. Vous voyez que la mission de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, c'était quoi? C'était d'éradiquer l'adoration des idoles de la péninsule arabe. Donc, ils ont pris cette action comme étant un mouvement rigoriste pour monter les musulmans les uns contre les autres. C'est uniquement ça l'objectif. Parce qu'à l'époque de Cheikh Abdel Wahhab et de ses descendants, des autres ulama, ils n'ont jamais appelé le mouvement wahhabite. Ça, c'est un terme extrêmement récent qui a été façonné par les médias. Et le but unique, c'est quoi? C'est de faire des groupuscules entre les musulmans, de faire des ahzab, de diviser la ummah pour que les uns mangent les autres. Et il se fut une époque où les déobandis, ils ont écrit des livres contre les wahhabis. Et les wahhabis, comme on les appelle, ils se sont jamais proclamés wahhabis, ils ont écrit des livres contre les ulama de l'Inde. Les arabes, ils critiquaient les indiens. Les indiens critiquaient les arabes. Et ça, cette division, on a retrouvé même, ça peut être l'œuvre des koufars. Là, c'est exactement le cas. La division de la communauté peut venir de l'ignorance et ce qu'on peut appeler du ta'assoub, du nombrilisme, toujours se voir comme le meilleur. Il y a une époque où les élèves d'Imam Abu Hanifa étaient prêts à s'entretuer avec les élèves de Ash-Shafi'i. Bien après le décès d'Imam Abu Hanifa et bien après le décès d'Imam Shafi'i. Donc, ça, c'est la pire des choses qu'il peut y avoir dans cette Ummah. C'est quoi? La division. La division peut venir soit de notre ignorance, comme c'est le cas des élèves d'Abu Hanifa et d'Imam Shafi'i il y a une époque. Certains presque allaient même considérer les autres comme kafir, na'oudou billah. Ou alors, on peut venir d'un travail qui est fait par les koufars qui ont comme objectif de diviser la Ummah. Et ça, on avait vu la dernière fois sous l'Empire Ottoman, Dawla Uthmaniya, comment ils ont tout fait, ils ont fait le maximum pour que Turcs et Arabes soient désunis. Et à tel point que les Turcs, à un moment donné, ils se sont désolidarisés complètement des Arabes, ils ont vu les Arabes comme étant un peuple concurrent, ils voulaient prouver que c'est nous qui dirigeons la Ummah, l'Empire Ottoman, c'était donc en Turquie, il dit que donc, ils commençaient même à donner l'adhan, on l'avait dit il y a deux semaines, ils donnaient le adhan en langue turque, pour montrer vraiment la supériorité de la race turque sur la race arabe. Et ça, c'était commandité par un pays. c'est pas des accusations, c'est des faits historiques. Le pays dont un grand pays colonisateur, c'est pas la France, bien sûr, nous ne fait rien de mal, c'est un grand pays colonisateur qui travaillait, on pourrait dire, ce dossier pour casser l'entente qu'il y avait dans la Oumma. Ils ont réussi à le faire, malheureusement. Donc ça, c'est la pire des choses. Quand nous voyons des communautés qui se montent les unes contre les autres, il faut savoir qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et l'objectif, c'est quoi? C'est une politique, ça. Désunir pour mieux régner. Hein, on va désunir pour mieux régner. Donc ça, c'était concernant le fait qu'il y aurait des gens qui, à la fin des temps, retourneraient vers l'adoration des idoles. Et dernier hadith à ce propos, le prophète a dit « Innahu sayakunu min dhalika » Et ça, le prophète explique que c'est vraiment à la fin des temps. À la fin des temps, le prophète explique que viendra ce fameux vent qui reprendra l'âme de chaque musulman, chaque personne. « Man fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman » Celui qui a l'équivalent d'un atome, qui a l'équivalent d'un grain de moutarde de foi dans son cœur, Allah reprendra son âme par ce vent doux qui passera sous les aisselles d'Ahl al-Iman. « Fayabqa man la khayra fi » Et il restera ceux en qui il n'y a aucun bien, il n'y a plus de traces de iman, fayarji'una ila dini abaihim, et ces gens-là retourneront vers la religion de leurs parents. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les derniers petits signes, vraiment avant la fin des temps. Et enfin, on terminera, on pourrait dire qu'on a fait le katam de Dashat al-Sa'a al-Sughra, quand on analyse tous les problèmes qu'il y a depuis les premiers petits signes qu'on a expliqués, jusqu'au dernier des petits signes concernant les mœurs, concernant les relations de la famille, concernant l'union de la communauté, la science religieuse, le Coran, etc., tout ce qu'on a dit, ben on se rend compte que la situation de la communauté va se dégrader et on arrivera au point final où ceux qui ont la foi de leur cœur, ils souhaiteront ardemment que Malik al-Mawd reprenne leur âme. Ceux qui auront iman de leur cœur, ils souhaiteront mourir. Le prophète a dit, hadith ibn Mas'ud, « Ya'ti ala nas zaman » Il viendra une époque où « Ya'ti rajulul qabr » Un musulman, un homme, il passe auprès d'une tombe, « Fayat tajir alay » Il s'allongera, il dira, « Si seulement j'étais à ta place, si seulement j'étais à ta place, seulement moi aussi j'étais déjà mort. » Et le prophète a dit que « Ma bihi hubbu liqa illa » Son but, ce n'est pas de rencontrer Allah. Cette personne souhaite la mort. Ce n'est pas comme quand on dit que le musulman, il a envie de rencontrer Allah. D'accord ? Ce n'est pas le cas. Il a dit, ce n'est pas qu'il a envie, il a iman qui fait qu'il a envie de retourner vers Allah. Non. Non. C'est tellement il y aura de difficultés, tellement il y aura de fitna sur la terre que cette personne souhaitera mourir et retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, il dit que « Ya laytani makanak » Si seulement j'étais à ta place, le prophète me dit que « Ma bihi shawqul illallah » Il n'a pas l'envie de retourner vers Allah. « Wala amala salih qaddamahu » Qaddamahu » Non plus qu'il n'a fait beaucoup de bonnes actions. Quand quelqu'un fait beaucoup de bonnes actions, son cœur est apaisé, il a envie de retourner vers Allah. Ce n'est pas son cas. C'est ni le iman qui lui fait dire ces paroles, ni un cumul de thawab, de bonnes actions qui le rassure, qui lui donne envie de retourner vers Allah, illa lima nazala bihi min al-bala, c'est uniquement les difficultés, les fitna qu'il y aura à son époque qui fera que la personne préférera mourir que de rester vivant dans sa situation. Il dira, ya laytani makanak, wala wa'ayinu ma wa'ayi, ça c'est un autre hadith, dit que si seulement j'étais à ta place et que je ne vois pas ce que je suis en train de voir. Ça sera le cumul des pires des fitna, la pire des situations avant la fin des temps, et ce sera vraiment la limite, certainement avant l'arrivée de Imam Mehdi. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, viendra une époque où la mort sera préférable à vous, à ceux qui ont la foi. Il a hadith min al rusli bil ma il baridi fil yom il qa'iri thumma la yamud, que mourir sera plus apprécié, sera plus souhaité par un homme que le fait de prendre un bain avec de l'eau fraîche lors d'une période de sécheresse et de forte chaleur. Et donc, ce sera la limite supportable d'un être humain. Et vraiment, avant la fin des temps, lorsque Imam Mehdi viendra, ce sera dans une situation où lorsqu'une personne dira qu'il est musulman, lorsqu'il dira Allah, la personne sera immédiatement tuée. Ça, sera vraiment la pire des situations. Lorsqu'une personne proclame sa foi, la personne sera immédiatement exécutée. Allahu alam, on n'est pas encore à cette époque. Certes, d'année en année, parfois, en l'espace d'un an même, nous voyons tellement de changements qu'il y a dans la situation des musulmans dans le monde, avec déjà, il y a quelques années, l'interdiction en France pour les filles de mettre le châle à l'école. Et là, certainement, une loi qui va être votée contre le fait que les femmes puissent se couvraient le visage dans les lieux publics, c'est-à-dire dans la rue tout simplement, l'interdiction du niqab définitivement, ce sont là des choses qui nous font comprendre que la situation des musulmans deviendra de plus en plus difficile avant la fin des temps. Et ce sont là deux signes évidents qui n'ont jamais existé avant. Et avec là, nous voyons de l'actualité en Suisse, l'interdiction, le peuple suisse apparemment se prononce défavorablement à propos de la construction de minarets. Et vous imaginez que lorsque une population ou un parti politique refuse que les mosquées élèvent des minarets, ce n'est pas la construction, ce n'est pas l'architecture des minarets, ce n'est pas ça le problème, on vise directement l'islam. Donc, il faut s'attendre avant la fin des temps, sans sombrer de la fatalité, mais il faut s'attendre à ce que vivre sa foi, affirmer son iman deviendra de plus en plus difficile. Nous avons là une jama de métropole de Clermont-Ferrand qui est là, et cette personne m'explique comment en métropole, surtout dans les régions un peu, pas dans la ville, mais dans les régions un peu plus éloignées, où il n'y a pas de forte population musulmane, comment le simple fait qu'un homme garde sa barbe, ça devient un mujahada énorme, ça devient un sacrifice énorme. Donc avant la fin des temps, la situation de Ahlul Iman, des gens qui ont la foi, sera de plus en plus difficile. Maintenant, il ne faut pas tout confondre aussi. Il ne faut pas chaque fois qu'on voit des choses qui sont écrites contre les musulmans, il faut se dire que ça c'est un signe de qiyamah évident. Il y a parfois la bêtise de l'homme aussi. Il y a parfois la bêtise humaine. Et cette bêtise humaine, malheureusement, j'ai l'impression que c'est elle qui couvre plus ce genre d'oppression qu'il y a sur les musulmans. On ne va pas entrer dans une discussion politique, mais on n'a qu'à analyser certains événements qui ont eu lieu en France il y a quelques semaines, et il n'y avait pas pire de choses pour donner une image extrêmement négative et malheureusement globale sur tout l'islam, sur l'islam tout entier. Il y avait un match entre l'Algérie et l'Égypte. L'Algérie apparemment avait perdu. Et donc, en France, il y a eu des centaines, voire des milliers d'Algériens, donc de confession musulmane, qui sont descendus dans les rues et qui se sont mis à briser les vitrines, à brûler des voitures, c'est-à-dire à manifester leur mécontentement. Alors, ce sont des gens qui sont nés en France et qui perçoivent toutes les facilités que peut avoir un Français natif, un citoyen français. Et que pour un match de football, déjà, ce n'est pas une raison valable pour un match, ce n'est pas une injustice, ce n'est pas une décision du tribunal ou autre chose qui a fait ça, mais uniquement pour un match qui concerne le pays d'origine, ils sont prêts à casser le commerce, les voitures des Français, des citoyens français. Alors, quelle image ces gens-là sont en train de donner de l'islam avec de tels agissements? Et comprenons bien, on a une discussion avec certains jeunes là-dessus, certains disent oui, mais ces gens-là, ils se reconnaissent. C'est-à-dire, ce ne sont pas des musulmans pratiquants qui font ça. Je suis d'accord avec vous, mais le français lambda, le français de base, est-ce qu'il va dire que cette personne-là, c'est quelqu'un qui va à la mosquée, ou celui-là, il ne va pas à la mosquée? Ah, il ne va pas à la mosquée, il casse, donc ce n'est pas tous les musulmans. Non! Du moment que c'est un arabe, c'est un musulman, c'est quelqu'un qui s'est dit Allahu Akbar, c'est un musulman. Et à travers ce genre d'action, il donne la pire des images qu'on peut donner de l'islam. Alors que nous, à travers les discours, à travers les prêches, à travers le comportement, à travers l'ouverture des mosquées, etc., on essaie de donner une image positive de notre religion. On essaie de donner la réelle image de notre din et des gens, des ignorants qui n'ont pas de pratique de la religion à travers ce genre d'action. Et regardez quelle image. Et même après le match retour qu'il y a eu, apparemment, il y a eu des drapeaux français décrochés et ils ont mis des drapeaux de leur pays. Mais ça sert à quoi, ça? Et puis, on s'étonne que par la suite, il y a des débats sur l'identité nationale, ce genre de choses, c'est le retour du bâton. Quand, subhanallah, quand on habite dans un pays quand même, et ce pays vous donne beaucoup de facilités, la moindre des choses, c'est de respecter le pays. D'accord? Tant qu'il n'y a pas des règles, il n'y a pas de décrets qui vont à l'encontre de notre iman, il n'y a pas d'oppression claire, il n'y a aucune raison à agir avec un tel, de manière aussi incivique que cela. Donc, c'est une question de bon sens également. Si nous voyons parfois des décrets qui tombent ou une haine croissante contre les musulmans en Europe, principalement en France, il faut se poser la question également, est-ce que nos frères musulmans de ces régions, et nous ne sommes pas à l'abri non plus, mais principalement de ces régions, est-ce qu'ils donnent une image positive de l'islam, oui ou non? Donc parfois c'est un retour malheureusement juste de bâton, à nous à travers notre akhlaq, notre comportement, de montrer quelle est la véritable image de l'islam. Mais à chaque fois qu'on a une visite de la mosquée, ça je vous fais une promesse, il n'y a pas une fois où il n'y a pas une visite de mosquée, que ce soit des collégiens, qui sont accompagnés par des professeurs ou des parents d'élèves, une visite de l'office du tourisme ou autre chose. Il n'y a pas une visite sans qu'à la fin, il y a des gens qui viennent et qui vous disent que vraiment, je ne savais pas que l'islam était aussi ouvert et accessible. Ou alors, quand puisqu'on reçoit beaucoup de touristes allemands, disent que nous, on a des mosquées dans différentes régions d'Allemagne, on n'est jamais entré, on ne savait pas qu'on avait le droit d'entrer, et on avait une image totalement décalée de l'islam. On n'avait pas cette image. Et quand on est venu vous voir la Réunion, visiter, on entend un imam expliquer c'est quoi la religion, on voit comment les musulmans vivent leur intégration, on se rend compte que vraiment c'est une belle religion. C'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à travailler. Qu'Allah nous accepte. Et donc, Inch'Allah, à partir de mardi, dans deux semaines, qu'Allah donne tawfiq, on va commencer un chapitre, ben ça c'est un autre domaine. On est dans Ashhatu Sa'a. Maintenant, on passe de As-Sughra, on passe vers les grands signes de Qiyama, avec l'arrivée en fanfare, Inch'Allah, de Imam Mehdi. Qu'Allah nous accepte, nous donne la sincérité et la constance. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin.